Dans le prétoire, Jean-Philippe Degnaud, vous rentrez tout juste du procès de l'affaire Pastor qui s'est révélé particulièrement intéressant sur la façon dont les avocats de la défense mènent leur plaidoirie. Comment font-ils quand leur client nie l'évidence ?
Oui, c'est une question qui se pose assez régulièrement devant les cours d'assises. Les preuves sont accablantes, mais l'accusé s'obstine à nier jusqu'à l'absurde. Dans le procès de l'assassinat d'Hélène Pastor, deux des principaux accusés, qui sont désormais condamnés à perpétuité, ont obstinément nié leur participation au crime. Wojciech Janowski, le gendre d'Hélène Pastor, le commanditaire, et Samine Saïd Ahmed, l'homme qui a tiré sur les deux victimes. Contre Saïd Ahmed, les enquêteurs avaient accumulé les preuves, la vidéosurveillance, la téléphonie, même une trace d'ADN. Et pourtant, à l'audience, le jeune homme a indiqué que s'il est bien allé à Nice le jour des faits, c'était pour rencontrer un ami dont il ne peut pas dire le nom. Si on le voit en compagnie de celui qui a tenu le rôle de guetteur, c'est par hasard. Quant à la trace d'ADN compromettante, alors là, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée là, a expliqué l'accusé.
Et au moment de plaider, comment l'avocat peut-il s'en sortir ?
Eh bien, d'emblée, l'avocat fait savoir au juré que lui non plus ne croit pas trop son client. Il s'engage dans une sorte de rupture afin de gagner la confiance des jurés, en espérant ainsi adoucir la peine qui sera prononcée. Bon, notez déjà que ça n'a pas marché. Maître Denis Fayol a évoqué ainsi un homme qui a tourné le dos à la raison. Il a dit qu'une défense ne se résumait pas à la parole d'un accusé, qu'un accusé a le droit de mentir, qu'il y a d'innombrables raisons de ne pas dire la vérité. Mais je ne sais pas faire de la magie, concède l'avocat. Alors certes, il va suggérer à la cour d'assises d'imaginer un instant que son client est innocent, que ça puisse ne pas être lui qui ait tiré, qu'il ait pu dire non au dernier moment, qu'il y ait eu un troisième homme. Vous allez me dire, mais qui serait ce troisième homme ? Oui, je sais, ça paraît invraisemblable, s'autocorrige Maître Fayol, mais je défends un homme qui a une position jusqu'au boutiste, comme pour s'excuser. Il conclura sur le comportement exemplaire de son client, qui poursuit des études en prison. Apprendre, c'est être libre. Il n'a pas fini d'apprendre, mais il est sur le bon chemin, se rassoit l'avocat.
Et les défenseurs de Janowski se sont eux aussi livrés au même exercice d'équilibriste.
Oui, on a beaucoup parlé de la plaidoirie émouvante d'Éric Dupond-Moretti, mais l'autre avocat de Janowski a choisi de plaider un peu comme dans un miroir. Maître Luc Febraro a justement expliqué son statut d'avocat de l'impossible. « Je suis comme un médecin face à un patient qui refuse les soins. Bien sûr qu'un avocat rêve de ne défendre que des innocents injustement poursuivis. » Puis, en montrant le box, « Je ne suis pas sûr de l'avoir aimé avant son procès. Je ne suis pas sûr de l'aimer après, mais pendant, je l'aime comme mon frère. » Alors oui, on pourrait dire que ces plaidoiries ne servent à rien, puisque les deux hommes ont pris perpète, mais elles donnent au procès tout le sens de la justice des hommes, c'est-à-dire redonner au pire d'entre nous quelques traits d'humanité avant de les exclure pour toujours de notre société.
Merci pour cet éclairage, Jean-Philippe Degnaud. Dans le prétoire, la chronique du service police-justice de France Inter, il y a une page spéciale sur France Inter où on retrouve toutes les chroniques de chaque semaine.